disant, moi je parierais pas, si j'étais riche et banquier et investisseur, sur l'avenir avec la politique économique de M. Trump. Mais encore une fois, là je ne suis pas spécialiste et je peux me tromper. Mais je pense qu'il y aura des lendemains qui déchantent pour les gens qui ont cru ce que Bush père appelait les vaudou... Comment il appelait ça ? Voodoo economics, c'est-à-dire que ça va à côté un peu foufou, tout est possible, les arbres poussent jusqu'au ciel, c'est idiot. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas un expert économique, mais je n'ai pas confiance dans quelqu'un qui a fait 6 fois faillite dans sa vie, qui triche avec ses impôts et qui a corrompu pas mal de monde autour de lui. Donc j'espère que je me trompe parce que je veux que du bien pour le bien-être des Américains.
Pour vous, Jean-Luc Hess, quel a été le meilleur président ?
Abraham Lincoln, ça remonte à loin, mais au moins ce type avait un sens de l'humour pas possible, une intelligence remarquable, un sens de l'histoire, et il a fait des choses pour son pays au prix d'une guerre civile qui a fait 600 000 morts. Donc il fallait être courageux et un peu visionnaire et un peu désespéré, et j'ai beaucoup d'estime pour cet homme. Ce qui m'ennuie, c'est que Donald Trump ait prêté serment quand il a été inauguré, comme on dit là-bas, sur les marches du Capitole, en jurant sur la Bible de Lincoln, Sainte Bible. Ça m'a défrisé pas mal.
Merci Jean-Luc Hess. Donc Trump Fiction, c'est publié aux éditions Baker Street. Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Il s'appelle...
Christophe Barbier, nous allons parler donc théâtre avec le tour du théâtre en 80 minutes. C'est au Théâtre de Poche Montparnasse. Christophe Barbier, on vous connaît bien sûr comme chroniqueur politique, moins comme homme de théâtre, bien que vous ayez ce dictionnaire amoureux à votre actif. Et c'est à partir de ce livre, finalement, que vous avez bâti cette pièce.
Oui, c'est parti des salons du livre, en fait, où on me demandait souvent de faire une conférence sur mon dictionnaire amoureux du théâtre. Et plutôt qu'une conférence, j'aimais bien faire un petit spectacle. Alors j'ai bâti le récit, le voyage de ce qui se passe dans la tête d'un comédien, du maquillage jusqu'au rappel. On commence par se maquiller, puis on a le trac, puis on entre en scène, puis on peut avoir des trous de mémoire, etc., etc. Et à partir de là, je me suis rendu compte que dans la discussion avec les spectateurs, les mêmes questions revenaient toujours sur l'histoire du théâtre, la création par les Grecs, l'excommunication des comédiens, les relations entre Molière et Louis XIV, etc. Et donc j'ai continué à bâtir ce spectacle, et au bout du compte, je suis arrivé à 1h30 de spectacle où je raconte théâtre et politique dans notre pays, mais aussi en Europe, pendant tous ces siècles.
Cette passion pour le théâtre, elle remonte à l'adolescence.
Oui, j'ai découvert le théâtre, comme beaucoup d'ailleurs, à l'adolescence. D'abord comme lecteur. Moi, j'aimais pas tellement les gros romans qu'on nous faisait lire, Flaubert, Stendhal, Balzac. Je trouvais que ça m'étouffait l'imagination. Tout était décrit dans les romans, les paysages, les décors, les caractères. Quand j'ai découvert le théâtre, je me suis aperçu qu'il y avait que les répliques. Tout le reste, on pouvait l'imaginer. Et donc, j'ai trouvé que c'était un formidable espace de liberté. J'ai commencé à me passionner comme lecteur pour le théâtre, puis j'en ai fait. J'en ai fait au collège, au lycée. J'ai joué Cyrano à 17 ans. C'était formidable. Et j'ai décidé de ne jamais arrêter. J'ai jamais voulu en faire mon métier, parce que ça me semblait terriblement difficile. Puis j'étais déjà passionné par la politique et par le journalisme, mais j'ai décidé de toujours en faire, et j'en fais même de plus en plus maintenant.
Christophe Barbier, pour revenir donc à vous sur les planches et à cette, on peut dire cette pièce, c'est une pièce de théâtre.
Hein. C'est un seul en scène d'une heure et demie où je raconte le théâtre à ma façon.
Alors justement, vous illustrez les différents propos, je suppose, par des extraits de pièces classiques. On peut donner quelques exemples pour les auditeurs.
Je m'attache notamment à tout ce qui est théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire des pièces qui nous parlent du théâtre. Par exemple, il y a une pièce de Molière qui s'appelle L'impromptu de Versailles. Les personnages de la pièce, c'est ces vrais acteurs de l'époque. Lagrange, Ducroisy, Mademoiselle Béjart, Mademoiselle Duparc. Il imagine que le roi a commandé une pièce en urgence à Molière et que ses comédiens refusent de travailler. Et donc, il parle théâtre avec ses comédiens, mais c'est une pièce de théâtre. Ils jouent leur propre rôle. C'est la première fois qu'on a inventé cela. L'illusion comique de Corneille, c'est pareil. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a plein d'aventures. On s'aperçoit à la fin que c'était pas des aventures, c'était une pièce de théâtre qu'il jouait. Il y a des tas de pièces dans le répertoire français, du Claudel, du Alexandre Dumas, qui nous racontent la vie des comédiens, qui nous parlent du théâtre dans le théâtre, et je m'attache à ces extraits-là. Puis je m'offre aussi un petit plaisir. Je meurs 4 fois en 1 minute. Je joue la mort de Cyrano, la mort d'Hernani, la mort de Roméo, la mort de Macbeth.
Et vous vous portez comme un charme. Il y a aussi des acteurs. Il y a aussi des acteurs qui incarnent le théâtre. Je pense à Jouvet, Guitry, Antonin Artaud.
Oui, il y a des acteurs, il y a des hommes de théâtre et des femmes de théâtre qui ont penser leur art. L'apport d'Artaud, d'ailleurs, qui n'était pas vraiment un acteur, mais qui a été un théoricien du théâtre, qui a essayé d'en écrire, est fondamental pour comprendre l'art de l'acteur. Jouvet, il commence comme régisseur, c'est-à-dire il s'occupe de la technique. Et il comprend qu'au-delà de la régie, il faut ensuite passer à la mise en scène. Et son art de l'acteur, il en fait un art du metteur en scène. Comment bien jouer, bien incarner les personnages. Et mieux que metteur en scène, il devient professeur. Et il écrit un texte fabuleux, qui est devenu un spectacle sous le titre Elvire Jouvet 40, où il raconte que le comédien doit se vider de lui-même, non pas pour incarner les personnages, mais pour être incarné lui-même par les personnages qui vont l'envahir une fois qu'il aura fait le vide de sa propre personnalité. Ce sont encore des techniques, c'est encore un art de l'acteur qui est valable aujourd'hui.
Donc ça s'appelle le tour du théâtre en 80 minutes, c'est au théâtre de Poche-Montparnasse. Vous envisagez une petite ou grande tournée internationale?
J'ai déjà joué à droite à gauche, j'ai joué à Aix-en-Provence il y a quelques jours, je vais à Draveil au milieu du mois de novembre. C'est un spectacle qui tient dans une valise et donc c'est formidable de pouvoir bouger, même si évidemment la télé me requiert tous les matins à Paris. J'essaye le week-end de m'échapper pour faire du théâtre et puis au Poche je suis jusqu'au 8 juillet 2019, ça laisse le temps de voir venir.
Christophe Barbier, donc pour parler de Sacha Guitry, Le Monde selon Guitry aux éditions Talendier. Sacha Guitry, c'est je pense l'homme de théâtre le plus célèbre après Molière.
Ah, sans nul doute, dans notre pays, aujourd'hui, après Molière, c'est l'homme qui est le plus fusionnel avec le théâtre. Sacha Guitry, non seulement c'était un auteur, il jouait ses propres pièces, il les mettait en scène, mais il allait plus loin, puisque c'est sa vie privée qu'il mettait sur scène. Il avait une vie privée qui elle-même était assez théâtrale, avec des scènes de ménage qui méritaient d'être portées sur scène. Il a d'ailleurs épousé ses interprètes, et quand il épousait une femme qui ne faisait pas du théâtre, elle en faisait quelques mois après, il la mettait sur scène. Ses cinq épouses ont été des artistes. Et donc Guitry, c'est vraiment la fusion complète du monde théâtral. À une époque en plus, il explose au tournant de la Première Guerre mondiale, il est le roi des années 20, des années 30 en France, à une époque où la vie théâtrale, c'était la fête parisienne, et la fête parisienne, c'était les années folles. Et donc, on a aussi une correspondance avec ce Paris qui va une dernière fois s'en